Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite un sabbat édifiant et reposant. Il n'est pas rare dans l'Église que nous parlons de notre appel. À un moment donné dans nos vies, Dieu a ouvert nos esprits à la vérité pour que nous puissions justement comprendre la vérité. Mais il y a d'autres appels dans la Bible, qui sont mentionnés dans la Bible. Et aujourd'hui, nous allons voir trois appels qui sont mentionnés dans la Bible. Le premier appel, c'est Abraham, que nous voyons mentionné dans Hébreux chapitre 11. Nous allons y revenir dans un moment. Deuxième appel que nous allons regarder aujourd'hui, c'est l'appel de la nation d'Israël, du peuple d'Israël. Et le troisième appel, c'est effectivement l'appel des disciples de Jésus-Christ. Il s'agit de notre appel. Et aujourd'hui, ce que j'ai voulu faire avec ces trois appels, c'est de mentionner, d'approfondir les trois aspects de l'appel, de chaque appel, les trois aspects de chaque appel, et ça c'est donc le titre du sermon. Pour ce sermon, je me suis inspiré d'une idée de M. Johnson qui enseigne à l'Institut de Fondement. Les trois aspects donc de chaque appel sont les suivants. Premièrement, le fait d'être appelé, par exemple, d'un endroit ou d'une situation. Deuxièmement, le fait d'être appelé à faire quelque chose de différent, de vivre différemment. Et le troisième aspect, c'est le fait d'être appelé à quelque chose de plus grand, un plus grand dessein, quelque chose au-delà de l'appel immédiat, dans les trois cas. Nous allons, si vous voulez bien, donc commencer avec Abraham, l'appel d'Abraham et son appel qui venait de Dieu et que nous voyons mentionné dans Hébreux chapitre 11. Dans Hébreux chapitre 11 et le verset 8, Hébreux chapitre 11 et le verset 8, la Bible, dans la version seconde, parle de sa vocation. Je vais vous lire ce verset dans la version Ostervald. C'est par la foi qu'Abraham, étant appelé par Dieu donc, obéit pour venir au pays qu'il devait recevoir pour héritage. Et il partit, ne sachant où il allait. Il était appelé à sortir d'Ur en Chaldée, comme c'est marqué dans Néhémie chapitre 9. Et dans Genèse chapitre 15, verset 7, Genèse chapitre 15, verset 7, je m'y rapporte pas, je vous le lis. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Abraham était donc appelé pour sortir d'un endroit et aussi pour mener un autre train de vie. Nous pouvons imaginer qu'Abraham avait réussi dans sa vie, déjà quand il était en Ur, parce que nous lisons quand il était arrivé à Charan, après son départ, nous lisons ceci dans Genèse chapitre 12 et le verset 5, « Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. » Déjà dans la famille, il y avait une certaine richesse, c'est ce que nous voyons avec, par la suite, avec Laban. Probablement une vie confortable, peut-être plutôt sédentaire, en Ur. Il a donc quitté tout ceci pour quelque chose de bien, bien différent. Parce que c'est mentionné dans Hébreux chapitre 11, qu'il habitait sous des tentes. Une tente n'est pas une demeure fixe. Expositor's Bible Commentary dit ceci, je vous le traduis depuis l'anglais. Il a rompu pour toujours avec le passé, même avant que l'avenir lui a été révélé. Il a rompu pour toujours avec le passé, même avant que l'avenir lui a été révélé. Dans le sens, l'avenir dans le sens de tous les détails. C'est marqué dans Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12 parle comme quoi il allait être une grande nation. Un peu plus loin, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mais si vous regardez les chapitres suivants où il est question d'Abraham, il y a des prophéties, des détails qui sont plus spécifiques. Dieu a donné des promesses à Abraham, mais Abraham, de son côté, était appelé à quelque chose de très différent de ce qu'il a connu en Ur. Il était appelé à une vie de foi en entrant dans la terre promise. Hébreux chapitre 11 et le verset 9. Hébreux chapitre 11 et le verset 9, nous lisons, c'est par la foi qui vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. C'est par la foi qui vint s'établir dans la terre promise. Abraham, à ce moment-là, avait beaucoup de biens, mais il habitait sous des tentes. Et la terre promise n'était pas encore la sienne. Il ne savait pas où il allait. Du reste, il a rencontré, au cours de sa vie, quand il était dans la terre promise, des défis, beaucoup de défis. Sarai était belle, une belle femme. Il y avait la famine. Il a pris une expédition pour récupérer son neveu, Lot. Et il y avait aussi la tension à cause d'un puits. Après le départ de Lot, dans Genèse chapitre 13 et le verset 14, Genèse chapitre 13 et le verset 14, nous lisons ceci. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi. » Parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Mais c'était pour l'avenir, c'était pas pour tout de suite. Et Abraham a erré dans le pays. Il a voyagé dans le pays. Il était un nomade, si vous voulez. Même dans la terre que Dieu lui a promise. Et cette terre allait être pour les générations futures. Dieu lui a pas donné un kilo de son vivant, Dieu lui a pas donné un kilomètre carré. C'était pour sa postérité. Peu de temps après son départ de Charan, Dieu a dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Mais même la terre promise n'était pas le dessein final de Dieu pour Abraham. Il y avait quelque chose de plus grand. Nous avons vu donc, premièrement, que Dieu a appelé Abraham pour sortir d'Ur. Deuxièmement, Dieu a appelé Abraham à quelque chose de très différent. Mais ce n'était pas le dessein final. Et là, nous abordons le troisième aspect de son appel. Il était appelé à quelque chose, donc troisièmement, Il a été appelé à quelque chose de plus grand, un dessein plus grand. Son existence dans la terre promise n'était pas une fin en soi. Il y avait quelque chose au-delà. Hébreux chapitre 11 et le verset 10. Hébreux chapitre 11 et le verset 10. Car Abraham, qui vivait par la foi, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Le synodal dit ceci, qu'il y a de solides fondations. Une tente n'a pas de fondation. Une tente est construite pour que vous puissiez vous déplacer librement, aisément. Une tente a un rôle plutôt temporaire. Même de nos jours, c'est toujours le même usage. Dieu est l'architecte et le constructeur, quelque chose de beaucoup plus grand que son héritage ou ce que sa postérité allait hériter. Verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Sarah aussi vivait par la foi. Verset 12. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Ils ont développé, Abraham et Sarah, ont développé la foi. Il y avait des leçons à apprendre dans la terre promise, une fois qu'ils y étaient. Verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, ceux qui sont mentionnés précédemment dans le chapitre. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Reconnaissant, le synodal parle comme quoi il se déclarait, et l'ostevald ayant fait profession d'être. C'était donc quelque chose dans leur cœur. Ils voyaient leur position et ils acceptaient leur position. C'était une question aussi d'attitude et de foi. Ils acceptaient qu'ils n'étaient que des étrangers et des voyageurs sur la terre. Des pèlerins, si vous voulez. Des pèlerins, et ils avaient leurs yeux sur autre chose. Des nomades qui traversaient cette terre étrangère. Verset 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. L'Ostevald parle de leur patrie. Et le mot patrie, traduit en français par patrie, en grec c'est patris. Strong's traduit ça en anglais par fatherland. Fatherland, en français nous dirions plutôt la mère patrie. Mais l'expression la mère patrie nous donne une idée de cet attachement très profond pour ce pays. Ils avaient leurs yeux sur quelque chose de beaucoup plus grand. Ils voyaient cet aspect de leur appel. Ils recherchaient cette patrie. Ils avaient leurs yeux sur cette patrie. Et Abraham comprenait bien que ça faisait partie du plan de Dieu en ce qui le concernait. Verset 15. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, dans le cas d'Abraham, c'était Ur, ils auraient eu le temps d'y retourner. Abraham n'a pas eu en vue celle d'où il était sorti. Il y a un exemple qui montre, qui démontre à quel point Abraham n'avait pas eu en vue celle d'où il était sorti. Vous vous rappelez probablement qu'Abraham a envoyé son serviteur pour trouver une femme pour son fils, pour Isaac. Et il a envoyé un serviteur digne de confiance. Le serviteur lui a posé une question. Si la femme ne voudrait pas le suivre, est-ce qu'il devait mener son fils dans le pays où il allait chercher une femme pour Isaac? Et la réponse d'Abraham était très éloquente. Il a dit ceci. Vous trouvez ceci dans Genèse chapitre 24 et le verset 6. Garde-toi, Genèse 24, verset 6. Je le lis seulement. Garde-toi d'y mener mon fils. Un peu plus loin, lui-même enverra son ange devant toi. Mais il voulait pas qu'Isaac retourne d'où il est venu. Et il avait la foi aussi, la confiance en Dieu, lui-même, en parlant de Dieu, enverra son ange devant toi. Il vivait pas la foi, mais il voulait absolument pas retourner dans le pays d'où il est venu. Il était résolu, il avait les yeux constamment sur autre chose. Ce que nous voyons du reste dans le verset 16. Verset 16, « Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. » Et ceci rejoint bien sûr ce que nous avons vu dans le verset 10, « Car il attendait, Abraham, il attendait la cité qui a de solides fondements ou fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » Nous parlons souvent du royaume de Dieu, de la Nouvelle Jérusalem. Abraham avait déjà ses yeux fixés sur ces choses spirituelles. Ça, c'est donc le premier exemple, c'est Abraham avec ses trois aspects. Le deuxième appel que nous allons étudier aujourd'hui, c'est l'appel des enfants d'Israël. Dieu a appelé Israël. C'est ce que nous voyons dans Osée chapitre 11 et le verset 1. Osée chapitre 11 et le verset 1. Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. J'appelais mon fils hors d'Égypte. Dans le verset 3, nous voyons que Dieu prenait soin de son peuple. Et Dieu était aussi, bien sûr, attentif à son peuple, attentif à leur souffrance quand ils étaient en Égypte. Comme c'est marqué, ces cris qui leur arrachaient la servitude montaient jusqu'à Dieu. Et à Moïse, Dieu a dit, « J'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. » Et au début, quand Dieu a appelé son fils hors d'Égypte, les gens, le peuple, étaient réceptifs. Exode chapitre 4 et le verset 30. C'est dans un premier temps ici quand Moïse et Aaron réunissent les anciens d'Israël. Exode chapitre 4 et le verset 30. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Verset 31. Et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Israël a coopéré. Israël a coopéré lors de la Pâque et par la suite, ils sont sortis la main levée. Ils ont répondu à l'appel de Dieu pour quitter l'Égypte, pour quitter leur situation. Le peuple était bien sûr dans une grande souffrance et sans doute ils connaissaient l'histoire des patriarches, de leurs ancêtres. Et puis nous savons ce qui s'est passé par la suite. Il y a eu toute une série de miracles. Dieu a affaibli petit à petit les Égyptiens. Dieu a humilié Pharaon et les Égyptiens. Et il y avait beaucoup de miracles. Et les miracles les aidaient à répondre à l'appel de Dieu. Juste avant la Pâque, nous trouvons dans la Bible la même expression que tout à l'heure. Le peuple s'inclina et se prosterna. Ils étaient réceptifs. Et ils ont, grâce à Dieu, ils ont traversé la mer Rouge. Ils étaient définitivement libérés. Donc Dieu les a appelés pour sortir de leur esclavage, pour aller dans un autre endroit, un endroit où ils étaient libres. Et deuxièmement, le deuxième aspect de leur appel, c'est qu'ils étaient appelés à faire quelque chose, à mener une autre vie dans un autre endroit, à entrer dans la terre promise en passant par le désert. Il y avait des problèmes, un certain nombre de problèmes, mais eux aussi, les enfants d'Israël, à leur niveau, devaient vivre par la foi. Le psaume 78 décrit la réaction. C'est un passage que M. Orchak a cité dans son sermon récemment. Dans le psaume 78, nous voyons ici la réaction si souvent des enfants d'Israël. Nous voyons leur manque de foi, leur incrédulité. Verset 22. Je saute au milieu d'un contexte. Parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Nous pouvons également lire le verset 7. Nous voyons le but pour les générations futures, verset 7, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance et qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements. Verset 32. Malgré tout cela, ils continuèrent à pécher. Ils ne crurent point à ses prodiges. Verset 19, toujours le même chapitre. Verset 19. Ils parlèrent contre Dieu. Ils dirent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Ils avaient pourtant admis le pouvoir de Dieu, la puissance de Dieu. Nous voyons verset 20. Voici, il a frappé le rocher et les eaux ont coulé et des torrents se sont répandus. Pourrait-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? Dieu avait fait toute une série de miracles et pourtant les enfants d'Israël n'ont pas développé, n'ont pas pratiqué cette foi, cette confiance en l'Éternel. Il y avait les fléaux, il y avait la mer Rouge et Abraham n'avait pas été témoin d'une multitude de miracles quand il est sorti d'Ur. Moïse et Josué ont eu la foi, la confiance en Dieu. Ce n'était pas le cas pour les enfants d'Israël. Ils étaient donc appelés à faire quelque chose de différent, d'avoir, d'exercer la foi, la confiance en Dieu, de mener une autre vie dans un autre endroit. Et avant les 10 plaies, Dieu a dit, je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. Et nous trouvons cette phrase répétée dans Exode et aussi dans Lévitique. Dieu répétait ceci à Moïse juste avant sa mort. Et à Josué, Dieu a parlé de possession du pays que Josué répétait aux officiers. Moïse et Aaron avaient la foi, mais la génération qui est sortie d'Égypte a échoué. Ils ont quitté l'Égypte physiquement, mais ils ont pris l'Égypte avec eux. Et à un moment donné, ils parlaient même de la nourriture qu'ils mangeaient en Égypte. Ils parlaient de leur régime, des concombres, des melons, des poireaux. La manne que Dieu pourvoyait pour eux à ce moment-là ne leur suffisait pas. Et ils ont dit, maintenant notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. Ils ont même méprisé, pour ainsi dire, ce que Dieu a donné, avec un miracle quotidien. Le veau d'or, les enfants d'Israël ont dit, comme Moïse était sur le mont Sinaï, ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, et quand il y avait le problème, le grand problème avec les espions, quand ils sont revenus, les enfants d'Israël ont dit à un moment donné, nommons un chef et retournons en Égypte. Ils ont quitté physiquement l'Égypte, mais ils ont pris l'Égypte aussi avec eux. Ils ne voulaient pas laisser l'Égypte derrière eux. C'était dans leur cœur et ils n'ont pas fait un trait sur le passé. Ils n'ont pas fait comme Abraham, qui voulait pas à aucun prix qu'il voulait retourner. Il ne voulait même pas que son fils retourne d'où il est venu. Les enfants d'Israël n'ont pas laissé l'Égypte derrière eux. Ils n'ont pas servi, ils voulaient pas servir Dieu d'une façon inconditionnelle. Ils voulaient pas lui faire confiance, contrairement à Abraham. Et ils ont donc échoué dans l'appel que Dieu leur a donné. Mais ça, c'est donc le deuxième aspect. Ils étaient appelés à faire quelque chose, à mener une autre vie dans un autre endroit. Mais il y a un troisième aspect de cet appel pour la nation d'Israël, c'est que Dieu avait un dessein plus grand. Dieu avait un dessein beaucoup plus grand qu'uniquement la terre promise. Et c'est à Sinaï que Dieu a dit, vous serez pour moi, ou il a parlé donc au peuple, à la nation, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Ce n'est pas uniquement la physique, il y avait autre chose. Il y avait cette question de nation sainte. Ils auraient pu être un modèle. Ils ont été choisis pour montrer un exemple. Plus tard, l'Israël spirituel était choisi pour être un exemple, mais ils auraient pu être un avant-coureur de cet Israël spirituel. Deutéronome, chapitre 4 et le verset 5. Deutéronome, chapitre 4 et le verset 5. C'est une écriture très intéressante dans ce contexte qui nous démontre, qui nous illustre le rôle que Israël aurait pu jouer. Verset 5. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé. C'est Moïse qui parle aux enfants d'Israël. Comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Verset 6. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront. Donc il y a une conséquence, il y a un effet du comportement d'Israël à ce moment-là. Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Ils auraient pu évangéliser, entre guillemets, évangéliser par l'exemple. Nous parlons de ça dans l'Église maintenant. Et déjà à l'époque, ils auraient pu évangéliser par l'exemple. Il y a eu des périodes dans leur histoire, des périodes plus connues, quand ils ont évangéliser avec cette sagesse. Et l'exemple certainement le plus connu, c'est à l'époque de Salomon. C'est une époque de faste spirituellement. Mais vous rappelez que la reine de Séba est venue voir la sagesse de Salomon. Ce que je trouve intéressant, c'est les commentaires, les remarques de la reine de Séba quand elle a vu cette sagesse extraordinaire donnée par Dieu à Salomon. Et elle a dit, et je cite, « Béni soit l'Éternel ton Dieu. » Et un peu plus loin, « Parce que l'Éternel aime à toujours Israël. » Parce que l'Éternel aime à toujours Israël. Sa conception de l'Éternel était façonnée par cette évangélisation, par cet exemple à l'époque de Salomon. Et dans 1 Roi chapitre 4, verset 34, je ne m'y rapporte pas, 1 Roi chapitre 4, verset 34, « Il venait des gens de tous les pays pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. » Sagesse donnée par Dieu. Israël était un exemple. Il y a d'autres cas de figure. Dans l'Ancien Testament, par exemple, il y avait un roi juste, Ézéchias. C'était un homme de Dieu. Et vous vous rappelez probablement que le roi d'Assyrie est venu, il voulait s'emparer de Jérusalem. Dieu est intervenu et Dieu a délivré Jérusalem de la main du roi d'Assyrie. Et c'était un témoignage. C'était un témoignage. Mais ça va, donc il y a eu cette période, parfois brève, où Israël a bel et bien été un exemple pour les nations autour, avec sa sagesse. Mais à l'avenir, ça va se réaliser sur une plus grande échelle. Dieu est miséricordieux, il est miséricordieux avec son peuple, avec nous. Et nous voyons dans Ésaïe chapitre 2, verset 3, Ésaïe chapitre 2, verset 3, des peuples, je le lis seulement, des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel. À une époque quand les esprits des gens sont ouverts, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il y aura cette évangélisation à l'avenir. Nous sommes assez familiers avec Zacharie chapitre 8 et le verset 23. J'ai voulu vous lire d'autres versets dans ce même chapitre. Nous allons commencer, si vous voulez bien, avec Zacharie chapitre 8 et le verset 7. Zacharie chapitre 8 et le verset 7. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je délivre mon peuple du pays de l'Orient et du pays du soleil couchant. Je les ramènerai et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu avec vérité et droiture. Une relation intime avec Dieu à ce moment-là. Verset 22. Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Verset 23, un verset avec lequel nous sommes assez familiers, que nous lisons parfois lors de la fête des tabernacles. Verset 23, « Ainsi parle l'Éternel des armées, en ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par la pente de son vêtement et diront, « Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Et quand on considère l'hostilité parfois vis-à-vis des Juifs à l'époque actuelle, nous voyons ici ce grand changement et une certaine évangélisation aussi. Le troisième aspect donc de l'appel d'Israël de la part de Dieu, c'était un appel à un dessein plus grand. Et cela m'amène au troisième exemple d'un appel dans ce sermon, l'exemple ou l'appel des disciples de Jésus-Christ. Notre appel dans l'Église.
1 Pierre chapitre 2, verset 9, avec ces trois aspects. 1 Pierre chapitre 2 et le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est le jour et la nuit, c'est le cas de le dire. Et nous voyons dans le verset 5, un autre verset qui illustre notre appel. Verset 5, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Nous sommes appelés d'un monde, d'une société et d'un système qui a ses propres normes. Une société qui est déterminée à suivre sa propre voie, qui est le contraire de la voie de Dieu, qui est en opposition même à la voie de Dieu, avec ses normes, ses compromis, et cela comprend aussi le péché, ses séductions, ses mensonges et sa pollution mentale. Et nous savons bien que l'Église peut facilement être influencée par la société qui nous entoure. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne devons pas faire partie de ce monde, mais dans ce sens spirituel, mais nous vivons physiquement dans le monde. Et nous faisions partie autrefois du système. Un système qui affectait profondément nos vies. Mais Dieu nous a appelés, premièrement donc, Dieu nous a appelés hors de notre Égypte personnelle. Nous avons été appelés d'un monde qui a perdu sa voix. Je pense que nous sommes très conscients que les normes ont beaucoup changé dans le monde, que on voit les changements qui s'effectuent devant nos yeux, pour ainsi dire. Nous vivons en Babylone. Babel, déjà à l'époque, c'était un système érigé contre Dieu. Et c'est facile pour nous d'oublier la description de Babylone que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 18. Apocalypse chapitre 18, le verset 4 et le verset 5. Apocalypse 18, verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Donc Dieu s'adresse à son peuple, à ses enfants, à ses disciples. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés, verset 5, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. 2 Corinthiens chapitre 6 et le verset 17. 2 Corinthiens chapitre 6 et le verset 17. Ici, dans ce passage, il y a des citations d'Ésaïe. Je saute au milieu d'un contexte, verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai, verset 18, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Dieu nous donne cette possibilité d'avoir cette relation intime avec lui. Et c'est vrai que nous avons quitté toutes nos croyances, toutes ces croyances comme Noël, le ciel ou l'enfer, comment était Jésus-Christ, Pâques, l'âme immortelle, le Saint-Esprit, démontré comme un troisième personnage, la divinité. Et la liste est longue. Et les gens sont séduits, c'est pas leur faute que les gens croient comme ce qu'ils croient, mais nous sommes appelés à davantage qu'uniquement le fait de changer de croyance. Nous sommes, donc, on est appelés hors de ce monde, mais nous n'avons pas été appelés à rafistoler notre ancienne vie, à arranger un petit peu notre ancienne vie. La Bible parle d'un habit neuf, d'un vin nouveau dans Luc chapitre 5. C'est un changement total. C'est toute notre approche à Dieu qui devrait changer. Que ce soit la prière, que ce soit l'étude de la Bible, que ce soit les autres choses. La Bible nous met en garde contre le fait de s'embarrasser des affaires de la vie. C'est ce que nous voyons dans 2 Timothée chapitre 2 verset 4. 2 Timothée chapitre 2 verset 4. Et si nous regardons les actualités, c'est presque tous les jours que nous entendons parler en France, tout au moins, de l'inflation, de l'augmentation des salaires, des coûts de la vie qui ont augmenté, du pouvoir d'achat qui a diminué. Il y a énormément d'accent là-dessous en ce moment, à cause de la situation actuelle. La Bible a un autre, Dieu a un autre approche. La Bible dit dans Hébreux chapitre 13 et le verset 5, « Contentez-vous de ce que vous avez. » Et c'est très difficile pour certaines personnes de faire ceci. « Contentez-vous de ce que vous avez. » Surtout dans un contexte qui est effectivement difficile et que nous ne savons pas ce qui nous attend à l'avenir. 1 Timothée chapitre 6 et le verset 8. 1 Timothée chapitre 6 et le verset 8. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. C'est l'apôtre Paul qui parle de perspective de Dieu, de perspective de la Bible. Et ceci, bien sûr, exige la foi. Parce que nous sommes appelés aussi à vivre différemment. Nous avons lu tout à l'heure dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9 que nous étions appelés un sacerdoce royal, d'être un exemple pour le monde. Ésaïe chapitre 52 verset 11. Ésaïe chapitre 52 et le verset 11. Je lis, partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Évidemment, c'était les fils de Lévi qui portaient les vases de l'Éternel sur un plan physique, mais le principe s'applique aussi pour nous qui sommes les vases de l'Éternel. Nous avons l'Esprit de Dieu, et c'est marqué puisque nous avons l'Esprit de Dieu. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Et il faut garder donc à l'esprit que Dieu nous a appelés hors de ce monde. Parfois nous voulons le confort de l'Égypte, si je puis dire, mais nous devons chercher à être et à devenir pur. La pureté morale, pure par exemple au niveau des yeux, c'est marqué dans Habacuc, en parlant de Dieu, tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Et nous devons donc concentrer sur cette pureté des yeux. Ce que nous regardons et ce qui ne convient pas de regarder. Il y a la pureté des yeux, il y a aussi la pureté quand nous parlons. Ce que nous disons, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est correct, est-ce que c'est bon pour notre prochain, pour Dieu et pour notre prochain. Et puis, il y a la pureté d'esprit. La pureté d'esprit, il y a parfois peut-être des pensées qui traversent notre esprit. Est-ce que ces pensées sont pures? S'ils ne sont pas pures, il faut les rejeter aussitôt. Est-ce que nous y pensons, à ces choses-là? Nous sommes appelés à des normes plus élevées. Nous avons une mission dans l'Église, c'est l'évangélisation. L'évangélisation par notre exemple. Nous devrons apprendre les leçons du passé, les erreurs du passé. Nous devons apprendre pour pouvoir enseigner. Et nous allons, en tant que sacrificateurs, enseigner aussi. Et ceci m'amène au troisième aspect de notre appel, c'est que Dieu a une grande un dessein plus grand pour nous, quelque chose de vraiment grandiose. Nous aussi, nous cherchons une patrie spirituelle, une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Et c'est quelque chose qui dépasse l'imagination. C'est aussi la vérité sur notre appel. 1 Thessaloniciens chapitre 2 et le verset 12. 1 Thessaloniciens chapitre 2 et le verset 12. Je commence avec le verset 11 pour situer un petit peu le contexte. Verset 11. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père, c'est l'apôtre Paul qui parle, ce qu'un père est pour ses enfants. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Sa gloire qui est quelque chose qui est tellement magnifique, tellement grandiose. C'est peut-être difficile pour nous d'imaginer l'avenir. Le fait que nous serons des êtres spirituels avec un pouvoir immense, un pouvoir grandiose. Et nous allons pouvoir aider le Christ quand il revient. Nous allons rencontrer le Christ dans les airs et nous allons revenir avec lui. Nous allons pouvoir aider des milliards d'êtres humains par la suite, pour qu'ils réalisent leur potentiel, qu'ils soient heureux et qu'ils puissent s'épanouir sous le gouvernement de Dieu. Nous allons aider à transformer ce monde et aider à transformer les êtres humains. Dieu veut nous donner cette gloire à l'avenir. Une existence au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer en ce moment. Est-ce que nous y pensons? J'ai voulu terminer avec un passage qui définit la réponse, la bonne réponse à cet appel et qui se trouve dans Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17, verset 14. Le contexte ici, c'est le retour du Christ. Apocalypse 17 et le verset 14, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Il s'agit là des gens qui vont s'opposer au retour du Christ. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, ceux qui vont rencontrer le Christ dans les airs, lorsqu'il revient sur cette terre, qui sont avec lui, les vaincront aussi. Les trois titres qui sont mentionnés ici, c'est les appelés, les élus et les fidèles. Et c'est une bonne description, par exemple, d'Abraham. Vous vous rappelez dans Matthieu chapitre 22, la parabole de ceux qui sont appelés aux noces, et ces gens ont fourni, ont donné des excuses à l'invitation. Le verset, Matthieu 22, le verset 14 dit ceci. Matthieu 22 et le verset 14. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. La différence, bien entendu, c'est la réponse à l'invitation. On devient des élus quand on répond à l'invitation, quand on accepte l'invitation et quand on part pour autre chose. Et puis le troisième mot, c'est fidèle. Ceux qui sont fidèles ont démontré qu'ils vont faire ce que Dieu demande, qu'ils ont fait ce que Dieu a demandé en dehors des désirs personnels ou des difficultés. Et nous sommes vraiment conscient que les choses ne sont pas faciles. C'est ce qu'ils sont. C'est leur caractère. Et Dieu sait qu'il peut compter à ce moment-là sur eux. Et c'est pour ça qu'ils sont dans le royaume. Abraham était appelé, élu et fidèle. Israël n'était pas fidèle à son alliance, comme c'est marqué dans le psaume 78. Il n'était pas fidèle à son alliance. Nous, si on va jusqu'au bout, si nous répondons à l'appel de Dieu, et si nous sommes fidèles, nous allons rejoindre le Christ dans les airs. 2 Timothée, chapitre 1, et le verset 9. Vous voyez dans le contexte ici, la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a dressé une sainte vocation. Dans le Darby, c'est marqué un saint appel. Un saint appel. Une sainte convocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Son propre dessein est selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Et dans Éphésiens chapitre 4, verset 1, je ne m'y rapporte pas, Éphésiens chapitre 4, verset 1, nous lisons, je cite, « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Nous avons besoin d'être conscients de notre appel. Que ce soit ancré dans nos esprits et dans nos cœurs. Il y a des devises ou des slogans qui sont utilisés, par exemple, par l'armée, par les scouts. Mais nous avons notre propre devise, si vous voulez, nos propres slogans, entre guillemets. C'est des mots qui fixent les normes ou qui définissent des mots qui définissent les normes pour notre conduite au jour le jour, pour les décisions que nous prenons au jour le jour et pour les relations que nous avons au jour le jour. Le devise, c'est les appelés, les élus et les fidèles.